1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour et bon sabbat. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose qui je pense, est nécessaire parce que il y a plusieurs mois, j'ai partagé un message qui s'intitulait « La pluie de l'arrière-saison depuis 1888 ». Et tout récemment, nous avons eu dans notre conférence, notre brève conférence, dans cette, surtout dans l'étude principale qui était la première, il a été fait allusion, encore une fois, au message de 1888, qui, si vous vous en rappelez, mentionnait la révélation de la justice de Christ. Et nous avons vu, à travers ces autres citations de l'esprit de prophétie, que ce message n'était autre que le début de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, qui était également le grand, qui était lui-même le grand cri du troisième ange. Et donc cela pose beaucoup de poids, de plus en plus de poids, à la lumière de tout ce que nous avons vu récemment et que nous avions déjà vu il y a plusieurs mois dans cette étude depuis 1888. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous faisions un retour sur 1888 et le message qui a eu lieu à cette date au sein de l'Église adventiste. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que 1888 est si important? Pourquoi le message qui a eu lieu en 1888 a-t-il une telle importance? C'est ça que j'aimerais que nous puissions aujourd'hui être en mesure de répondre pour nous-mêmes. Pas simplement d'entendre la réponse, d'entendre quelqu'un nous donner la réponse, mais que nous puissions arriver à saisir et dire ah, c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Parce que c'est intéressant, mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que nous avions vu, mais j'aimerais aussi quand même réitérer le fait que aujourd'hui même, hein, si vous allez dans le site officiel du mouvement de réforme, parmi les études principales du mouvement de réforme qui aide à comprendre les origines historiques et prophétiques du mouvement de réforme des adventistes du septième jour, vous voyez en premier lieu, l'une des premières études, c'est l'étude sur 1888. Et ce qui est tout particulièrement présenté, ce sont les déclarations de Sir White présentant justement ce message et l'impact de ce message et comment ce message a été reçu, à savoir par les dirigeants de l'Église adventiste à l'époque. Et nous y voyons que le message n'a pas été bien reçu, qu'il a été en grande partie rejeté par certains. Certains qui l'avaient rejeté ensuite s'y sont réconciliés, mais la plupart ne l'ont jamais accepté. Mais nous voyons cela sur la page et les déclarations officielles du mouvement de réforme, mais vraiment, en fait, comme d'ailleurs nous pouvons le voir maintenant, hein, à la lumière des déclarations qui ont été faites en 1987 et 1999, vraiment, nous n'avons pas compris l'esprit. L'esprit n'a pas été vraiment compris. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions contempler aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important? Parce que de toute évidence, nous n'avions pas compris pourquoi c'était si important. Parce que quand quelqu'un est arrivé pour présenter le réel esprit de 1888, là ils se sont mis à dire, ah non, ça, on ne croit pas à ça. Vous comprenez? Donc en fait, c'est comme si on s'attachait à certaines déclarations, mais que en fait nous n'avions pas vraiment plongé nos regards dans ce dont tout cela parlait, dans le vrai cœur du sujet de 1888. Nous n'avions pas vraiment plongé nos regards. Et donc lorsque les dirigeants du mouvement de réforme en 1984 se sont retrouvés confrontés à la prédication du vrai sujet de 1888, hein, en Nouvelle-Zélande, et ça ne leur a pas plu. Pourquoi? C'est parce que on arrivait à trouver l'origine de l'existence du mouvement de réforme dans le message de 1888 à travers les déclarations de l'esprit de prophétie, mais on n'avait pas pour autant contemplé toute la magnitude, toute l'ampleur et tout l'impact personnel du message de 1888. Et donc j'aimerais que nous puissions aujourd'hui, là je viens de faire un petit récapitulatif, maintenant j'aimerais que nous tournions vers quelques questions auxquelles nous allons essayer de pouvoir répondre à travers les déclarations de l'esprit de prophétie que nous allons lire en suivant. Donc ici, je fais appel à votre raisonnement, à votre attention, pour que vous soyez attentifs à ce que nous allons lire, pour que vous puissiez répondre intelligemment aux questions. Pas juste que vous attendiez que Victor donne les réponses, mais que nous réfléchissions à pourquoi est-ce que c'est celle-ci, et si telle est la réponse à la question, alors est-ce que j'y crois? Et si j'y crois, à quel point est-ce que j'y crois? Ça que j'aimerais que nous, ce à quoi j'aimerais que nous réfléchissions ici. Donc, j'ai noté trois questions, et au fur et à mesure que nous avançons, peut-être nous allons en rajouter une quatrième et une cinquième. Mais déjà, focalisons-nous tout d'abord sur ces trois premières questions. Première question, que s'est-il passé de si particulier en 1888? Que s'est-il passé de si particulier en 1888? C'est la première question. Notez bien ici, nous allons y revenir, mais notez bien. Essayez de bien absorber. Deuxième question, quelle importance avait le message qui fut alors présenté. Quelle importance avait le message qui fut alors présenté à cette date? Troisième question. Des personnes particulières ont-elles été choisies pour communiquer ce message? Est-ce que nous voyons dans l'inspiration des personnes particulières qui sont mentionnées comme ayant été choisies pour communiquer ce message? Hein? Je veux dire choisies par Dieu pour communiquer ce message au peuple de Dieu. Et donc, pour répondre à cette question, c'est vrai que nous nous tournions vers la déclaration du livre Événements des derniers jours, à la page 151, et premièrement, paragraphe 2 pour commencer. Et je lis. Le Seigneur, dans sa grande... Faites bien attention ici, frères et sœurs, parce que nous essayons de répondre aux questions intelligemment. D'accord? Donc, là, nous sommes en train de lire l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, et nous voulons des réponses à nos questions, pas simplement pour savoir dans notre intellect, mais pour pouvoir cogiter à l'impact des réponses que nous sommes en train de recevoir pour notre vie quotidienne. Hein? En quoi cela va impacter ma propre vie quotidienne? quotidiennement les réponses que je suis en train de recevoir aux questions que nous venons d'énumérer juste avant. Je lis. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Wagner et Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Ce message présentait la justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Tout pouvoir a été remis entre ses mains afin qu'il puisse faire de riches dons aux hommes, accordant le don inestimable de sa propre justice à l'être humain désespéré. Tel est le message que Dieu a commandé de donner au monde. C'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez relevé certaines choses? J'espère que vous avez gardé à l'esprit nos questions, parce que si nous avons juste lu cela comme ça, nous risquons de ne pas vraiment recevoir quelque chose. La première question, c'était: que s'est-il passé de si particulier en 1888? Est-ce que vous avez relevé une réponse? Au début de la citation, il est écrit: le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple. Que s'est-il passé? En 1888, Dieu a envoyé un précieux message à son peuple. C'est ça qui s'est passé. Dieu a envoyé un message. C'est ça qui s'est passé. Il faut vraiment que nous arrivions à cogiter pour bien enregistrer ici. Pour ce que nous allons entendre ensuite et lire ensuite par la suite. La deuxième question, c'est: quelle importance avait le message qui fut alors présenté en 1888? Quelle était l'importance de ce message? Nous entendons, c'est la justice de Christ. C'est Christ et sa justice. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Quelle est l'importance? Pourquoi est-ce si important? Parce que sinon nous entendons, c'est le grand cri. Nous n'avons pas compris, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous lire plus tard, à la fin de notre étude aujourd'hui, je vais vous lire directement des paroles du frère Wagner, ce à quoi et ce vers quoi toutes ces déclarations tendaient, ce dont ces déclarations parlaient. Parce que là, nous sommes en train de lire une description de l'esprit de prophétie sur le message, mais nous n'avons même pas encore lu le message. Comprenez? Donc c'est ça vraiment. Il faut que nous recevions le message même pour qu'ensuite nous revenions vers les déclarations d'esprit de prophétie et que nous disions, que nous nous rendions compte, c'est de ça dont il parlait. C'est pour ça qu'il avait écrit ça. C'est pour ça que Ezra White avait dit ça. Parce que sinon, nous sommes juste en train de lire une déclaration d'esprit de prophétie, nous disons d'accord, Dieu a envoyé un précieux message, mais j'ai toujours pas entendu le message. Je sais même pas ce qu'ils disent. Vous comprenez? L'esprit de prophétie, oui, il nous indique le résumé englobant ce message. Mais nous ne l'avons même pas encore lu, même pas encore entendu. C'est ça que j'aimerais que nous puissions prendre le temps d'écouter. Bon, mais en attendant cela, contemplons ensemble, frères et sœurs, les déclarations englobantes et résumante de ce message pour nous préparer à l'écouter et à avoir une oreille pour entendre et discerner toutes ces choses dont l'esprit de prophétie parlait, que nous sommes en train de lire. Donc, quelle était l'importance de ce message qui était alors présenté? Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur, le sacrifice pour les péchés du monde entier. C'est quand même un gros but, non? Bon, je sais que des fois, il nous arrive, quand on lit l'Esprit des prophéties, on l'a tellement lu que ça nous passe un peu sur la tête. Des fois, on rate complètement ce qui est dit. Mais si nous prenons le temps de réfléchir, peut-être qu'on arrivera à passer au-delà de ces barrières, au-delà de ces habitudes de dire « Ah oui, c'est bien, mais je ne comprends pas. » Le but de ce message, c'était d'exalter devant le monde le Sauveur, le sacrifice pour les péchés du monde entier. Ce message présentait la justification par la foi dans la rançon. Justification par la foi. Ça, c'était une des choses que le message présentait. Vu de nombreux angles différents, le message présentait cela. Nous allons le voir ici. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre, ce message? Il invitait les gens. Écoutez la manière dont c'est déclaré ici. Les paroles ne sont pas mises au hasard ici. Le message invitait les gens. Parce que là, juste avant, il était déjà question de la justification par la foi, dans la rançon. Donc la justification par la foi, elle vient d'en parler. Mais là, il est écrit que le message invitait les gens à recevoir la justice de Christ, qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Donc, le message présentait la justification par la foi dans la rançon qui est Christ, mais plus que cela, il invitait les gens à recevoir la justice de Christ. Donc là, il s'agissait de la justice impartie, de la justice transmise, de la justice communiquée. Pas simplement de la justice imputée par la foi, mais de la justice communiquée. Et le message invitait le peuple de Dieu à recevoir la justice de Christ comme cela. Dans une telle dimension que la justice qui appartient à Dieu, qui appartient à Christ, que Christ a manifesté dans sa vie, puisse devenir la nôtre, tandis que nous la recevons, de manière à ce qu'elle soit rendue manifeste par une obéissance à tous les commandements de Dieu. Voyez l'ampleur du message. Voyez quelle importance avait ce message qui fut alors présenté. Et la troisième question, qui est relativement évidente, mais qu'on devrait quand même souligner, c'est: des personnes particulières ont-elles été choisies pour communiquer ce message? Qui c'était? Nous avons lu au début: le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères E.J. Wagoner et A.T. Jones. Par les frères Wagoner et Jones. C'est ces deux hommes-là que Dieu a choisi pour envoyer ce précieux message. Ou plutôt, je devrais dire, Dieu a envoyé ce précieux message par ces frères-là. Vous comprenez? Donc c'est assez clair ici. Le message a été envoyé à travers ces frères-là. Il n'y a personne d'autre qui est énuméré, qui est listé ici. C'est ces deux hommes-là que Dieu a utilisé pour communiquer et envoyer et apporter ce message et révéler ce message à son peuple, au peuple adventiste. Vous comprenez? Donc, ça revient sur notre question numéro 2, à savoir, quelle est l'importance de ce message? Et à quel point ce message est distinct de tout autre message? Vous comprenez? Donc là, nous venons de voir les réponses à nos trois questions. Et ce que nous voulons faire ensuite pour élargir maintenant la réponse à cette question 1 et cette question 2 et cette question 3, c'est lire une autre déclaration de l'esprit de prophétie que nous trouvons dans le livre The Ellen G. White Materials of 1888, qu'on appelle aussi brièvement 1888 Materials. à la page 348 et au paragraphe 4, encore une fois, ce sera disponible, comme d'habitude, dans le PDF. 1888 Materials, 348, paragraphe 4. Voilà ce que Sir Whitehead disait en rapport direct à ce message de 1888. Nous sommes en train ici, frères et sœurs, de faire un retour sur 1888 à travers les déclarations de l'esprit de prophétie pour comprendre pourquoi est-ce que c'est si important. Pourquoi est-ce que c'est si important? Nous allons y revenir. Et là, je lis maintenant dans cette citation. Elle disait, « On m'a posé la question, deux points, que pensez-vous de cette lumière que ces hommes, elle parlait de Jones et Wagoner, que ces hommes présentent ?» On lui posait la question, « Que pensez-vous de cette lumière que ces hommes présentent ?» Qu'en pensez-vous, Sir White ? Elle répond, « Eh bien, c'est ce que je vous présente depuis 45 ans, les charmes incomparables de Christ. » Comprenez? Ça faisait 45 ans qu'elle présentait ce message. Mais quand le message est arrivé par les frères Jones et Wagoner, les gens ne savaient pas s'il fallait le recevoir ou le rejeter, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils ne l'avaient jamais entendu. C'est intéressant ici. Écoutez ce qui est écrit juste après. Je relis. Elle a répondu, « Eh bien, c'est ce que je vous présente depuis 45 ans, les charmes incomparables de Christ. C'est ce que j'ai essayé de présenter à vos esprits. » Pendant 45 ans, Sir White a essayé de présenter ce message, ou plutôt cette lumière, aux esprits du peuple de Dieu. Ensuite, elle continue. Lorsque le frère Wagoner a exposé ses idées à Minneapolis, donc à la conférence de Minneapolis en 1888, lorsque le frère Wagoner a exposé ses idées à Minneapolis, c'était la première fois que j'entendais un enseignement clair sur ce sujet de la bouche d'un être humain, à l'exception des conversations entre mon mari et moi-même. » Vous comprenez? Donc, en résumé, avant d'entendre le frère Wagoner, c'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un, quiconque, exprimer ce sujet d'une manière aussi claire à son intelligence que cela l'avait été dans ses entretiens personnels avec son mari, James White. Hormis ses entretiens personnels avec son mari, jamais elle avait entendu quelqu'un l'exprimer aussi clairement avant le frère Wagoner. Vous comprenez ici, frères et sœurs. Ce n'est pas rien. Ça vous montre, comme nous l'avions lu juste avant, que le Seigneur a envoyé, dans sa grande miséricorde, un précieux message par les frères Wagoner et Jones. Par les frères. Sir White avait essayé pendant 45 ans, mais hormis ses entretiens avec son mari, jamais elle avait entendu quelqu'un le dire comme Wagoner l'avait dit et présenté. Pourquoi? Parce que Dieu donner une lumière à travers ces deux hommes. Ensuite, elle continue. Je me suis dit, deux points, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que je le vois si clairement, ce sujet. Et ils, les autres, ne peuvent pas le voir parce que cela ne leur a jamais été présenté comme à moi. Et quand un autre l'a présenté, chaque fibre de mon cœur a dit « Amen ». Quand elle a entendu Wagoner présenter ce sujet, chaque fibre de son cœur a dit « Amen ». Amen. Elle se disait « C'est ça que le Seigneur m'avait toujours montré, que j'ai essayé de montrer au peuple de Dieu, de présenter à leurs esprits. Mais Dieu, en son temps et à sa façon, et par ses messagers, a envoyé ce message d'une clarté inédite à travers les frères Wagoner et Jones. C'était une lumière. Hein? Les personnes avaient posé la question à Sir White, « Que pensez-vous de cette lumière que ces hommes présentent ?» Elle a dit, « Ça fait 45 ans que j'essaie de vous le dire. » Vous comprenez ? Mais de toute évidence, ça n'avait pas percuté parce que dans la déclaration précédente, il était écrit, hein, dans le contexte de l'Église de Dieu, de l'Église adventiste, il était écrit « Beaucoup avaient perdu de vue Jésus. » Ils avaient besoin que l'on dirige leur regard vers sa divine personne, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Comment ? À travers des hommes, choisis, des hommes à travers lesquels le Seigneur a déversé son esprit. Parce qu'il était écrit, ce message-là, c'est le message que Dieu a commandé de donner au monde, c'est le message du troisième ange qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, Dieu était en train ici de dire, dans l'esprit de prophétie ici, que ce message, ce serait, d'ailleurs nous l'avons lu autre part, que c'était le grand cri, c'était le début du grand cri du troisième ange, il devrait être proclamé d'une voix forte, donc de ce grand cri, et qui serait progressivement, de plus en plus, accompagné, ce message serait accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Vous comprenez ici ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'effusion du Saint-Esprit, elle est liée à ce message. Parce qu'il est écrit que ce message sera accompagné d'une large mesure de l'effusion du Saint-Esprit. Donc l'effusion du Saint-Esprit, dans la pluie de la saison, elle est indissociable de ce message. Là où ce message est, là où ce message est prêché, dans toute sa vérité, dans toute son ampleur, c'est là que la pluie est. C'est là que l'effusion du Saint-Esprit est. Si vous allez là où est ce message, vous allez là où va l'Esprit. Vous comprenez? Si vous rejetez ce message, vous rejetez l'esprit. Si vous rejetez ce message, vous rejetez la pluie. Si vous quittez ce message, vous quittez l'esprit. Vous comprenez comment c'est sérieux? Donc là, nous voyons, frères et sœurs, hein, encore une fois, la réponse à la question « Quelle importance avait le message qui fut alors présenté ?» Quelle importance ? Sir White disait, ça fait 45 ans, j'essaie de vous le dire, c'est les charmes incomparables de Christ. Voilà à quel point c'est important. C'était la justification par la foi en la rançon, et c'était le message qui invitait les hommes, les gens, le peuple de Dieu à recevoir la justice de Christ. Une justice de Christ qui serait rendue manifeste par leurs œuvres, par leur obéissance à tous les commandements de Dieu, tous. Ce serait une obéissance qui ne ferait aucune exception, aucun compromis. C'est d'ailleurs pour ça que la fameuse mère du frère Acessas, elle disait « Nous avons vécu la pluie de la saison. » Parce que la pluie de la saison, qui était liée à ce message de 1888, indissociable, elle les invitait et elle leur a permis d'avoir la puissance qu'il les faisait, qu'il les rendait obéissants à tous les commandements de Dieu. Alors que ceux qui avaient refusé le message, qui avaient méprisé le message, qui l'avaient dédaigné, ils n'avaient pas la puissance, ils n'avaient pas la pluie, et ils ont désobéi. Comprenez ? Je parle bien sûr de la Première Guerre mondiale, lorsque la grande majorité des adventistes en Europe sont allés avec le gouvernement. On enfreint le quatrième et le sixième commandement, en principe. J'aimerais lire une autre déclaration de l'esprit de prophétie, encore une fois, qui se trouve dans le livre 1888 Materials, cette fois-ci à la page 608 et au paragraphe 2. Encore une fois, Sir White pose la question suivante, en rapport avec ce message qui fut présenté par ses deux frères. Elle dit, la question qui se pose, c'est, deux points, Dieu a-t-il envoyé la vérité? Elle dit, est-ce que Dieu a envoyé la vérité? Est-ce que Dieu se moque de nous? Est-ce que nous nous sommes trompés? Dieu a-t-il envoyé la vérité? Dieu a-t-il suscité ces hommes pour proclamer la vérité? Je dis que oui, Dieu a envoyé des hommes pour nous apporter la vérité que nous n'aurions pas eue s'il n'avait pas envoyé quelqu'un pour nous la transmettre. Littéralement, s'il n'avait pas envoyé quelqu'un pour nous l'apporter. Vous comprenez ici? Elle a demandé, Dieu a-t-il suscité ces hommes, ces deux hommes, hein, Jones et Wagoner, pour proclamer la vérité? Elle dit, je dis que oui, Dieu a envoyé des hommes pour nous apporter la vérité que nous n'aurions pas eue si Dieu n'avait pas envoyé quelqu'un pour nous la transmettre. Autrement dit, si vous prenez la parole au pied de la lettre ici, ce que nous sommes encouragés à faire parce que c'est le témoignage de Jésus, eh bien si Dieu n'avait pas envoyé ces deux hommes pour nous apporter la vérité, eh bien nous ne l'aurions pas eu. Nous n'aurions pas eu ce message. Autrement dit, ce message était indissociable de ces deux hommes. C'est à ces deux hommes, et c'est ces deux hommes que Dieu a suscité pour proclamer cette vérité, pour donner cette lumière, pour présenter ce précieux message. Comprenez? Ensuite, elle dit, Dieu m'a fait connaître ce qu'est son esprit, je l'accepte donc, et je n'ose pas plus lever la main contre ces personnes, car ce serait contre Jésus-Christ, lequel nous nous devons de reconnaître en ses messagers. Comprenez? Elle disait, je me dois de reconnaître en ses messagers le Seigneur. Je me dois, et je ne lèverai pas la main contre eux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a suscités pour donner son message, sans lesquels ils n'auraient pas reçu ce message. Vous voyez? Donc je pense que ça rend assez clair la réponse à nos questions. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions réfléchir davantage ici, frères et sœurs, en lien avec le message du troisième ange. Parce que nous avions lu dans notre déclaration précédente que ce message de 1888, ce n'était autre que le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte, etc., comme nous venons de lire. C'est le message du troisième ange. C'est quand même une déclaration assez ample, assez sérieuse et assez large. Et en rapport avec cela, cette déclaration, j'aimerais que nous réfléchissions. Quel est le poids des enseignements qui furent présentés par les frères Wagoner et Jones à la conférence générale de Minneapolis en 1888 et qui continuèrent à être présentés dans les années suivantes? Quel est le poids de ces enseignements-là qui ne se sont pas arrêtés en 1888, hein, mais qui ont continué par la suite. Parce que de 1888, en réalité, nous n'avons que très peu de traces écrites. Mis à part les présentations de Sir White, nous n'avons pas de traces écrites, à ma connaissance, de ce que les frères Wagoner et Jones ont présenté. Par contre, nous avons beaucoup d'écrits de leur part et d'eux, de Wagoner et Jones, dans les années, dans les mois et les années qui ont suivi cette conférence. Et donc, nous voulons savoir quel est le poids de ces enseignements-là qui furent présentés à partir de 1888. Parce que ça ne s'est pas arrêté à partir de ce moment-là, ça a commencé à partir de cette date? Et quel est le rapport de ces enseignements-là avec le message du troisième ange? Quel est le rapport? Si nous ne comprenons pas le rapport, eh bien, le message, nous n'aurons pas la puissance parce que nous ne comprenons pas. Comment est-ce que nous pouvons avoir la puissance d'un message dont on ne comprend pas vraiment les ramifications? Hein, on nous dit, le message 1888, c'est important, mais je n'ai pas compris. C'est quoi le rapport? C'est ça que j'aimerais que, c'est à cette interrogation que j'aimerais que nous puissions répondre ici. Et donc, suivez-moi ici, frères et sœurs, dans ce raisonnement biblique que j'aimerais, dans lequel j'aimerais nous lancer ici. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, si vous y allez avec moi, nous allons faire une très courte étude biblique ici. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, nous lisons au sujet d'un peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je le lis, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, nous lisons au sujet de ce peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ensuite, dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, nous lisons que quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Comme c'est marqué dans la Bible King James, le péché est la transgression de la loi. À savoir, la transgression des commandements. Le péché est la transgression de la loi. Nous parlons de la loi de Dieu. Et donc, le péché est la transgression des commandements de Dieu. Suivez le raisonnement. Donc, pour que ce peuple-là, d'Apocalypse chapitre 14, pour que ce peuple arrive à cette condition de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui n'est autre que la loi de Dieu. Il faut pour cela qu'il ne pêche plus. Puisque quiconque pêche transgresse les commandements. Vous comprenez? Vous voyez la logique? Donc pour qu'ils arrivent à cette condition, il faut qu'ils aient arrêté de pécher. Parce que tant qu'ils pêchent, ils ne peuvent être ce peuple qui garde les commandements de Dieu. Donc pour être ce peuple qui garde les commandements de Dieu, il faut qu'ils aient cessé de pécher, parce que celui qui pêche transgresse la loi, et la loi, ce n'est autre que les commandements de Dieu. Il faut qu'ils ne pêchent plus, il faut qu'ils aient obtenu la victoire sur le péché, qu'ils aient cessé, arrêté de péché. C'est là que la foi de Jésus entre en jeu, et c'était là la raison du message de 1888. Vous m'avez suivi ici? Pour arriver à la condition spirituelle de ce peuple qui garde les commandements de Dieu, il faut arrêter de pécher. Mais pour arrêter de pécher, il faut la foi de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Jésus avait une foi qui permet d'arrêter de pécher? Et en quoi l'exemple de Jésus est significatif pour nous? Jésus avait-il une chair, une nature semblable à la nôtre? Vous voyez, c'est ça le train de pensée qui est engendré par la réflexion sur le troisième ange qui a été présentée par le message de 1888. Le message de 1888 a engendré tout ce train de pensée en lien direct avec les paroles d'Apocalypse chapitre 14 verset 12 au sujet de ce peuple qui est présenté comme se tenant sur la montagne de Sion avec l'agneau, étant sans tache et sans fraude dans leur bouche, Ils sont arrivés à ce stade, qu'ils sont sans péché, qu'ils gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Par la grâce de Dieu, cristalliser ici cette brève méditation que nous avons eue, j'aimerais que nous prenions un temps maintenant pour écouter directement le message de la bouche d'un des messagers. Pour cela, j'ai traduit une partie d'un espèce de sermon qu'il fut présenté lors de la conférence générale de 1901. À l'époque, c'était des conférences générales qui duraient plusieurs jours. Et cette présentation a eu lieu le 22 avril. Et la référence, c'est 22 avril 1901, General Conference Bulletin, page 403 jusqu'à la page 405. C'était les paroles de Ellet J. Wagoner. Je lis. Écoutez bien, frères et sœurs, parce que là, nous venons maintenant au message. Nous avons entendu parler du message, nous avons appris ce que Dieu disait au sujet du message, ce que la servante du Seigneur disait au sujet de ce message. Et maintenant, nous voulons entendre ce message de la bouche de ces messagers. Je lis. Après avoir pris la parole la dernière fois que j'étais ici, on m'a remis deux questions, et je pourrais les lire maintenant. L'une d'entre elles dit ceci, deux points. Cette sainte chose qui est née de la Vierge Marie, est-elle née dans une chair pécheresse et cette sainte chose qui est née de la Vierge Marie, est-elle née dans une chair pécheresse? Et cette chair avait-elle à lutter contre les mêmes tendances au mal que la nôtre? L'expression « cette sainte chose » la fait référence aux paroles de Luc, où il est écrit dans nos Bibles françaises « ce saint enfant qui sera né de toi, qui sera né de toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira, et ce saint enfant qui sera né de toi sera appelé, etc. » C'est dans les paroles à Marie. Et donc la question c'était, cette sainte chose qui est née de la Vierge Marie, est-elle née dans une chair pécheresse ou de péché? Et cette chair avait-elle à lutter contre les mêmes tendances au mal que la nôtre? C'est ça la question qu'on lui a posée. Donc, nous écoutons maintenant la réponse. Il dit, alors, je ne sais rien à ce sujet, si ce n'est ce que je lis dans la Bible, mais ce que je lis dans la Bible est si clair et net que cela me donne une espérance éternelle. J'ai eu ma période de découragement, de désespoir et d'incrédulité, mais je remercie Dieu qu'elle est passée. Cette chose qui pendant des années de ma vie m'a découragé, après que j'ai essayé de servir le Seigneur aussi sérieusement et consciencieusement que quiconque l'ait jamais fait, ce qui m'a fait renoncer en mon âme et dire « ça ne sert à rien, je ne peux pas le faire », c'était la connaissance, dans une certaine mesure, de ma propre faiblesse et la pensée que ceux qui, à mon sens, faisaient le bien et que ces saints hommes d'autrefois dont la Bible parle, étaient constitués différemment de moi, de sorte qu'ils pouvaient faire le bien. J'ai découvert, par de nombreuses et tristes expériences, que je ne pouvais faire que du mal. Il a découvert cela. Car, bien que j'aimais parfois à penser que je m'en sortais plutôt bien, il m'arrivait tout à coup d'être mis au pied du mur et je m'apercevais que toute la structure que j'avais édifiée était jetée à terre. Après de nombreuses expériences douloureuses de ce genre, j'ai abandonné en désespoir de cause en me disant « Cela ne sert à rien que j'essaye d'être bon. Les autres peuvent peut-être y arriver, mais pas moi. » Ça vous rappelle quelque chose, ça? Est-ce que vous avez aussi vous-même, est-ce que vous êtes vous aussi vous-même arrivé à ce genre de conclusion intérieure? Tout le monde semble bien y arriver, mais vous, vous n'arrivez pas. Vous pouvez vous donner l'impression que vous vous en sortez plutôt bien, jusqu'à ce que vous tombiez dans le péché et que tout ce que vous aviez érigé par vos bonnes œuvres semble s'écrouler devant vous. C'est ça qu'il disait. Il disait, après de nombreuses expériences douloureuses de ce genre, j'ai abandonné en désespoir de cause, en me disant, cela ne sert à rien que j'essaye d'être bon. Les autres peuvent peut-être y arriver, mais pas moi. Pas moi. Maintenant, écoutez. Il continue. Il demande à l'audience. Je vous le demande. Si Jésus-Christ, qui est présenté par le Père comme le Sauveur, qui est venu ici pour me montrer le chemin du salut, en qui seul il y a de l'espoir. Si sa vie ici sur terre était une imposture, alors où est l'espoir? Une voix dit, il n'y en a plus. Il continue. Mais, dites-vous, cette question présuppose tout le contraire du fait que sa vie était une imposture, car elle présuppose qu'il était parfaitement saint, si saint qu'il n'a jamais eu même le moindre mal à affronter. Il continue, il répond à cette question rhétorique. C'est de cela dont je parle. Je lis qu'il a été tenté en toute chose comme nous, mais sans péché. Il cite les paroles d'Hébreu. Je lis qu'il a prié pendant toute une nuit. Je lis qu'il priait dans une telle agonie que des gouttes de sueur comme du sang tombaient de son visage. Mais si tout cela n'était qu'un simulacre, si tout n'était qu'un spectacle, s'il a traversé tout cela et que cela ne voulait rien dire après tout, s'il n'a pas été réellement tenté, mais qu'il a simplement fait semblant de prier, à quoi tout cela me sert-il? Je me retrouve dans une situation pire encore qu'avant. Vous comprenez? Il est en train ici de mettre en contraste le genre de sauveur que ce serait s'il était né dans une chair sans péché. Il dit, à quoi ça sert? Ça ne me sert à rien, si c'est juste du spectacle. Vous comprenez? Il met en contraste l'absurdité d'une croyance selon laquelle Jésus serait né dans une chair sans péché, et à quel point inutile serait un tel sauveur. Vous comprenez ce qu'il dit ici? Il dit, c'est de ça dont je parle. Je lis qu'il a été tenté, je lis ceci. Mais si tout cela n'était qu'un simulacre, si tout cela n'était qu'un spectacle, s'il a traversé tout cela et que cela ne voulait rien dire en fait, après tout, s'il n'a pas été réellement tenté, mais qu'il a simplement fait semblant de prier, à quoi tout cela me sert-il? Il disait, si nous disons que Jésus était tenté en toutes choses comme nous, mais qu'il était tenté juste de l'extérieur, pas de l'intérieur comme nous, il dit, à quoi cela me sert-il? Ça ne me sert à rien tout ça. Ça ne me sert à rien. Ce n'est pas un sauveur ça. Comprenez ici. C'est de ça dont il parle. Il continue. Mais oh, s'il y en a un, et je n'utilise pas ceci avec la moindre pensée de doute, je dirais plutôt, puisqu'il y en a un qui a traversé tout ce que je peux être appelé à traverser, qui a résisté à plus de choses que je ne pourrais jamais être appelé à résister dans ma propre personne, qui a connu des tentations plus fortes que celles qui me sont jamais arrivées personnellement, qui était constitué à tout égard comme moi, seulement dans des circonstances pires encore que celles que j'ai connues, qui a affronté toute la puissance que le diable pouvait exercer à travers la chair humaine, et qui pourtant n'a pas connu le péché, alors je peux me réjouir avec une grande allégresse. Des voix dans l'assemblée disent « Amen ». Alors je peux m'égayer et me réjouir de son salut. Car il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Et ce qu'il a fait il y a quelques 1900 ans, il peut encore le faire et il le fait pour tous ceux qui croient en lui. Ensuite, il poursuit. Avant de poursuivre avec ce passage, laissez-moi vous montrer l'idée qu'il y a dans cette question. Vous l'avez en tête. Christ, cette sainte chose qui est née de la Vierge Marie, est-il né dans une chair pécheresse? Avez-vous déjà entendu parler de la doctrine catholique romaine de l'Immaculée Conception? Il pose la question. Avez-vous déjà entendu parler de la doctrine catholique romaine de l'Immaculée Conception? Et savez-vous ce que c'est? Certains d'entre vous ont peut-être supposé, en l'entendant, que cela signifiait que Jésus-Christ était né sans péché. Ce n'est pas du tout cela le dogme catholique. La doctrine de l'Immaculée Conception veut que Marie, la mère de Jésus, est née sans péché. Pourquoi ? Demande-t-il. En apparence, pour magnifier Jésus, élever Jésus, en réalité, c'est l'œuvre du diable pour creuser un large gouffre entre Jésus, le sauveur des hommes, et les hommes qu'il est venu sauver, afin que l'un ne puisse pas passer vers l'autre. C'est tout. Est-ce que vous avez compris ici ce qu'il est en train de présenter ici? Les idées qu'il est en train de présenter ici? Il demande si nous connaissons la doctrine de l'Immaculée Conception. Et il dit, certains d'entre vous ont peut-être supposé que, en l'entendant, que cela signifiait que Jésus-Christ était né sans péché. Et il dit, mais ce n'est pas du tout ça, c'est plus que ça. Il dit, c'est la doctrine selon laquelle Marie était née sans péché, pour qu'elle puisse ensuite donner naissance à Jésus dans une chair sans péché. Et qu'est-ce que cela fait, cela? D'avoir un sauveur qui n'est pas né dans la même nature que nous, c'est ça que j'aimerais, vers quoi j'aimerais attirer votre attention. Il dit, c'est l'œuvre du diable pour creuser un large gouffre entre Jésus, le sauveur des hommes, et les hommes qu'il est venu sauver, afin que l'un ne puisse pas passer vers l'autre. Afin que l'un ne puisse pas passer vers l'autre. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire que si Jésus n'était pas tenté en toute chose comme nous, n'était pas dans la même nature que nous, comme le dogme catholique l'enseigne, alors ce serait creuser un gouffre entre le Sauveur et le pécheur, de telle sorte que Jésus ne peut pas aller vers le pécheur, et que le pécheur ne peut pas aller vers Jésus. Pourquoi? Parce que leur nature humaine est différente. Vous comprenez? Donc si le Sauveur est né dans la chair, mais qui n'est pas tenté en toutes choses, intérieures et extérieures, comme le pécheur, comme nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela creuse un gouffre impassable entre le Sauveur et le pécheur, de telle sorte que le Sauveur ne peut pas aller vers le pécheur et que le pécheur ne peut pas aller vers Jésus. Vous comprenez? Il dit, c'est tout. C'est tout ce que c'est. Je continue. Il faut que nous nous décidions, chacun d'entre nous, si nous sommes hors de l'Église de Rome ou non. Il y en a un grand nombre qui en ont encore des traces. Mais je suis persuadé de ceci, que chaque âme qui est ici ce soir désire connaître le chemin de la vérité et de la justice. L'Assemblée dit « Amen ». Et qu'il n'y a personne ici s'accrochant inconsciemment au dogme de la papauté qui ne désire en être libéré. Il continue. Ne voyez-vous pas que l'idée selon laquelle la chair de Jésus n'était pas comme la nôtre, car nous savons que la nôtre est pécheresse, implique nécessairement l'idée de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Remarquez qu'il n'y avait pas de péché en lui, mais le mystère de Dieu manifesté en chair, la merveille des siècles, l'émerveillement des anges, cette chose qu'ils désirent encore aujourd'hui comprendre et dont ils ne peuvent se faire une idée juste, sinon parce que l'Église leur enseigne, c'est la manifestation parfaite de la vie de Dieu dans sa pureté sans tache au cœur de la chair pécheresse. L'Assemblée dit « Amen ». Oh, c'est une merveille, n'est-ce pas? Il continue. Supposons que nous partons un instant de l'idée que Jésus était si distinct de nous, c'est-à-dire si différent de nous, qu'il n'avait dans sa chair rien à combattre. Supposons, dit-il. C'était une chair sans péché. Alors bien sûr, vous voyez que le dogme catholique romain de l'Immaculée Conception s'ensuit inévitablement. Mais pourquoi s'arrêter là? Marie étant née sans péché, alors bien sûr, sa mère aussi avait une chair sans péché. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là. Il faut remonter à sa mère, et ensuite à sa mère, et à sa mère, et à ses parents, et ainsi de suite jusqu'à Adam. Et le résultat? Il n'y a pas eu de chute. Adam n'a jamais péché. Et ainsi, vous voyez, en retraçant tout cela, nous trouvons l'identité fondamentale du catholicisme romain et du spiritisme et de toutes les autres fausses doctrines de l'évolution aussi, qui prétendent qu'il n'y a jamais eu de chute, mais seulement une ascension. L'idée spiritiste selon laquelle tout en l'homme est juste et bon, et l'homme est Dieu lui-même. Vous voyez qu'on en arrive là quand vous remontez à la source. Les paroles de la Bible concernant Christ, nous les avons lues, deux points. Il cite « C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Nous lisions les souffrances de Christ. Il cite « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Il continue. Combien d'entre vous pensent que les souffrances de Christ étaient seulement les quelques moments où il était suspendu à la croix, quand ses mains et ses pieds étaient percés ou quand les soldats romains se moquaient de lui? Non, pas seulement à ces moments-là. Il a souffert étant tenté, il cite, comme on peut le lire dans la Bible Martin. Il cite, il a souffert étant tenté. Jésus-Christ n'a pas moins souffert lorsque, après son baptême, il fut tenté par le diable dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, que lorsque, plus tard, dans le jardin, il souffrit et fut tenté. Hein? Il dit, il n'a pas moins souffert quand il était tenté dans le désert que quand dans le jardin il souffrit et fut tenté. Il est en train de tout ramener ici, vous voyez, pour effacer ces traces du catholicisme en nous. Parce que il disait, il faut que nous décidons aujourd'hui si nous sommes hors de l'Église de Rome ou non. Parce que nous ne nous réalisons pas que peut-être notre esprit est encore en harmonie avec l'Église de Rome. La manière dont nous voyons Dieu, la manière dont nous communiquons à Dieu, dont nous échangeons avec Dieu, dont nous nous relationnons avec Dieu. Il est en train ici de mettre les choses en perspective, vous voyez? De dire que Jésus a tout autant souffert quand il était tenté que lorsqu'il souffrait jusqu'à en transpirer des grumeaux de sang. Parce que la souffrance, ce n'était pas... C'est ce qu'il montre ici. Il disait, combien d'entre vous pensent que les souffrances de Christ étaient seulement les quelques moments où il était suspendu à la croix, quand ses mains et ses pieds étaient percés, ou quand les soldats romains se moquaient de lui? Et il dit, non, pas seulement à ce moment-là. Vous voyez ici, il nous apprend que la souffrance, ce n'était pas... La souffrance de Christ, ce n'était pas physique. La souffrance de Christ, c'était avec le péché. Et le péché, c'était par la tentation. Il continue. Il a souffert étant tenté, il cite. Où a-t-il souffert? Nous le lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Il cite. Christ, ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même... Quelle chair? Il dit. Armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il continue. Il a été tenté dans la chair. Il a souffert dans la chair. Mais il avait une pensée qui n'a jamais consenti au péché. Ensuite, il cite les paroles de Philippiens, chapitre 2, verset 5, comme on peut les lire dans la Bible King James. Écoutez bien. Qu'il y ait donc en vous cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Il dit, armez-vous de cette même pensée, la pensée de Dieu, et laissez cette pensée maîtriser le corps, et vous ferez l'expérience en vous-même de ce mystère, du pouvoir que Jésus-Christ a sur toute chair, le pouvoir que Dieu lui-même a de démontrer sa propre justice parfaite dans les pires conditions possibles que le diable pourrait concevoir, et il montre ainsi sa puissance sur le diable. Est-ce que vous avez saisi ici le message? Jésus a été tenté dans la chair, il a souffert dans la chair, il a souffert étant tenté, et donc nous sommes exhortés à nous armer de cette même pensée qui, par laquelle il régissait tout son corps et sa conscience. Vous comprenez? Parce qu'il est écrit, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Et Jésus nous a montré l'exemple de cela. De telle manière que le frère Wagoner, il disait, armez-vous de cette même pensée. Il lisait Philippiens, il disait, qu'il y ait donc en vous cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Ayez cette pensée que Jésus-Christ avait en lui et par laquelle il maîtrisait son corps, il assujettissait tout son corps et par laquelle il a obtenu la victoire sur le péché. En notre nom, d'une telle manière que nous puissions ensuite nous réclamer, non pas d'une autre chair, mais de la pensée de Christ, la pensée qui était en Christ, la nature divine. Notre chair reste cette chair de péché, mais en recevant la nature divine, en recevant la pensée qui était en Jésus-Christ, en recevant cette même pensée, nous sommes rendus capables de maîtriser et d'assujettir le corps et de faire l'expérience en nous-mêmes de ce mystère de la piété. Du pouvoir, comme il disait, du pouvoir que Jésus-Christ a sur toute chair. Comme Jésus, il le disait dans Jean chapitre 17. Il disait, le pouvoir m'a été donné sur toute chair. C'est intéressant. Nous pensons, oui, il dirige les hommes, il les gouverne. C'est pas ça que ça veut dire. Du moins, c'est pas juste ça. C'est que, en obtenant la victoire sur le péché, dans la chair de péché, Jésus a obtenu le pouvoir sur toute chair, de telle sorte que si nous recevons la pensée qui était en Christ, nous obtenons le pouvoir de résister à la tentation dans la chair. La même chair que Jésus avait, que nous avons, que les patriarches avaient, et qu'Adam a commencé et a reçu après la chute. Vous comprenez? Le pouvoir que Dieu lui-même a de démontrer sa propre justice parfaite dans les pires conditions possibles que le diable pourrait concevoir, et il, Dieu, montre ainsi son pouvoir sur le diable. Comment? Comment est-ce que Dieu montre son pouvoir sur le diable? En Christ et en nous, si nous recevons et que nous nous armons de cette même pensée. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait, que le diable sera bientôt écrasé sous vos pieds. Comment est-ce que nous écrasons le diable sous nos pieds? En soumettant, en assujettissant notre corps, notre chair, par la puissance et le pouvoir de la pensée de Christ. Ayez les mêmes sentiments, il est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 5, mais j'aime beaucoup la tournure de la Bible King James qui dit « Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus », à savoir qu'il y ait en vous cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Cette même pensée, la pensée par laquelle il a obtenu la victoire. Et qu'est-ce que nous lisons, frères et sœurs? Au sujet de ce peuple vainqueur dont Jésus a parlé dans ses paroles à Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, il dit, il a parlé du verset 14 au verset 19, il parlait à l'ange de l'église de Laodicée. Nous savons que l'ange a rejeté le message de 1888 et qu'ensuite il s'est montré infidèle lors de l'éclat de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, nous voyons la postérité de cet ange, de cette femme. Au verset 20, où il se tenait à la porte, Il dit, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est l'expérience après être sorti. Et ensuite, ce troisième mouvement ici, Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Donc c'est très clair ici, frères et sœurs. Jésus a vaincu la puissance du mal en résistant à la tentation par cette pensée dont il était animé, et que nous sommes maintenant invités à revêtir et dont nous nous sommes appelés à nous armer pour pouvoir aussi obtenir la victoire, afin que nous puissions aussi nous asseoir avec lui sur le trône de la divinité, dans la famille du ciel parmi les 144 000. Puissions-nous, frères et sœurs, nous armer de cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Amen.